Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui la preview des playoffs NBA qui ont déjà commencé. On a fait un numéro sur la conférence Ouest, on fait un numéro sur la conférence Est et sans tarder, c'est Charlie que j'accueille immédiatement. Salut Charlie.
Salut Josh, salut à tous.
Alors Charlie, on a fait la conférence Est, on fait la conférence Est, Ouest, je sais plus, qu'est-ce que je
on
dis.
On a fait l'Ouest et là on fait l'Est.
Ah merci, tu peux m'aider un peu Charlie, c'est pas ah,
je suis un peu. Hein.
donc voilà, on va faire les séries 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. Et on commence immédiatement avec un crève-cœur énorme pour moi. Boston versus Miami. Ça aurait dû être la revanche, comme Nuggets, Lakers dont on a parlé tout à l'heure, la revanche de la finale de conférence de la saison passée. J'étais excessivement content que ça soit une possibilité. Et là, il y a Jimmy Butler qui se fait les ligaments et qui ne jouera très certainement pas puisque il sera réévalué dans plusieurs semaines.
Il jouera pas
du tout. Terry Rozier est absent, Duncan Robinson est absent. Bref, c'est l'hécatombe totale côté Miami, puis sans leur maître à jouer. Et j'ai envie de te dire que ça va être compliqué d'espérer de voir Miami faire quelque chose face à Boston qui sort d'une saison absolument historique, la domination pure et simple de tout le monde, de toute âme qui vive en NBA, c'est Boston qui règle, c'est un peu le Sauron de la NBA. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a à la fois la blessure de Butler et en plus c'est face à Boston, donc c'est on va pas vous mentir, hein, on va pas vous vendre une série serrée et haletante.
Bah ouais, je sais pas si une analyse détaillée de tous les chiffres, de tous les face-à-face est pertinente dans ce cas de figure.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit le secteur qu'on regarde, quel que soit le secteur qu'on analyse dans cette série, Boston est devant. Il y a un seul secteur où, pour moi, Miami reste devant, c'est le coach, mais c'est tout, en fait. Tout le reste, Boston a juste trop d'atouts. Meilleure attaque, défense de très haut niveau, le banc intéressant, c'est un des meilleurs net rating de la ligue. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait que le Heat va jouer sa chance à fond. C'est une équipe qui ne lâche rien, ils sont pénibles à jouer quoi qu'il arrive, ça va se battre. Mais il y a trop d'écart. Et en plus, il y a un passif entre les deux équipes qui fait que Boston va vouloir marquer son territoire. Bon, je pense que si quelqu'un a un autre pronostic que Boston remporte cette série, c'est soit un visionnaire hors norme, soit quelqu'un qui picole un peu trop.
On aurait pu dire ça pour Heat versus Bucks la saison passée, mais bon, là il y avait Jimmy Butler. Là, sans Jimmy Butler, c'est injouable. Et je respecte tellement Bam Adebayo que je vais donner un match à Miami. Je vais dire 4-1 pour Boston dans le pronostic de cette série. Mais j'ai pas grand chose à dire malheureusement concernant le Heat parce que franchement, cette blessure là dans le play-in, tout ça pour aller battre les Bulls dans la rencontre face aux Sixers là.
Ouais. Ouais, c'est pas une bonne pub pour le play-in.
Non, quoi. Ouais, clairement, ouais.
Pour le play-in, surtout qu'au final, dans les deux conférences, les deux play-in ont pas changé grand-chose. Ouais, non seulement ça n'a pas changé grand-chose, parce que en fait, c'est les 7e et 8e qui sont passés à chaque fois, mais plus, on a perdu deux franchise players, Zion à l'ouest et Butler à l'est. Voilà, moi c'est clair qu'avec la perte de Jimmy Butler, j'ai envie de mettre Boston en 4. Malgré tout, comme toi, je vais donner un match à Miami pour deux raisons. La première, c'est que j'ai retenu la leçon de la saison dernière et que je ne sous-estimerai plus jamais cette équipe en play-off. Donc, en hommage à leur campagne 2023, exactement, on leur donne un match. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est Spoelstra. Pour moi, je l'ai déjà dit plein de fois dans le podcast, c'est le meilleur coach de la Ligue. Chaque saison en play-off, il nous trouve des solutions, des ajustements, il invente des trucs. Quand on les voit sur le parquet, on se dit quoi ? Mais comment c'est possible ? Et à chaque fois, ça marche. Donc, j'ai envie de croire qu'il est capable de voler un match. Mais honnêtement, la logique serait que Boston l'emporte 4-0. Mais on va donner un match à Miami par respect.
Ouais, je suis désolé. Je suis un peu chafouin de faire cette preview de Boston-Miami. Parce que pour moi, c'était vraiment... Il y avait un gros potentiel en termes de divertissement, de plaisir, basketballistique pur. Et et la fête est totalement gâchée, quoi.
Ouais, et puis en plus, je veux dire, c'est quand on connaît la mentalité du Heat et de Butler, ça aurait été incroyable parce que, enfin, tu vois, genre Boston, ils arrivent, tu l'as dit, ils ont archi dominé tout le monde pendant la régulière, ils seraient arrivés hyper confiants et en phase 2, ils se seraient retrouvés avec un Butler qui leur dirait mais les gars, ce que vous avez fait n'a aucune valeur et seul compte les playoffs et je vais vous montrer ce que c'est que le basketball de playoffs. Ça aurait été incroyable, ça aurait été magnifique, mais on en est privé et ouais. Vraiment c'est ça fait chier.
On en a parlé de Boston. Ils sont clairement sur une autoroute, au moins jusqu'en finale NBA. Donc là, ils ont Miami sans Jimmy Butler, sans Terry Rozier, sans Robinson. Après, ça serait potentiellement Cleveland ou Orlando. On en parlera tout à l'heure. Mais bon, j'ai l'impression que ça, pour faire le poids face à Boston, du côté de ces deux équipes, ça va être quand même extrêmement compliqué. La finale de conférence, ça sera potentiellement compétitif. Il faut voir contre qui et dans quel état l'adversaire va se présenter face à Boston. Parce que eux, s'ils passent en 4-5 matchs les deux premiers tours, forcément, ils vont être totalement frais au moment d'attaquer cette finale de conférence. Alors que de l'autre côté du bracket, ça peut être des gardes tranchées, des équipes qui soit commencent déjà à diminuer physiquement, soit qui risquent de donner tellement tout ce qu'ils ont dans le ventre qu'ils vont arriver épuisés. Je sais pas. J'ai l'impression vraiment que Boston, personne peut les stopper à l'Est.
Ils ont un boulevard.
On en a déjà parlé, je sais plus dans quel podcast, je crois que c'est quand on a fait la présentation de chaque équipe pour les playoffs. Mais ils ont, voilà, comme tu l'as dit, un net rating, c'est insolent. Enfin, ils ont dominé de la tête et des épaules cette saison. Tous les chiffres montrent qu'ils sont partis pour aller gagner le titre. C'est rare de dominer comme ils l'ont fait et de ne pas réussir à s'imposer à la fin. Je crois que sur les 15 dernières équipes à avoir un différentiel de points de au moins plus 9,3 ou plus sur une saison de 82 matchs, il y en a deux seulement qui n'ont pas gagné le titre. Les Warriors de 2016. Donc, ont perdu en finale contre LeBron James et les Spurs de 2016. C'était deux équipes de la même année. Assez drôle. Les 13 autres, elles ont gagné. Donc voilà. Et il y a plein de chiffres comme ça. On pourrait continuer d'étaler ce genre de statistiques où on montre que, grosso modo, les Celtics, s'ils perdent, c'est presque scandaleux, quoi.
Oui, et puis au-delà de ce côté des chiffres de la saison régulière qui sont effectivement spectaculaires, il y a aussi le. Enfin, si tu regardes les powerhouses de l'Est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Milwaukee, on l'évoquera plus tard. Il y a beaucoup trop d'incertitudes physiques. Les Sixers, on l'évoquera plus tard aussi, mais Joel Embiid, trop d'incertitudes physiques aussi. Enfin, en fait, il y a une configuration qui fait qu'aujourd'hui, en fait, à l'Est, parmi les équipes qui sont supposées être dominantes, il n'y a que Boston, en fait, qui soit en pleine possession de ses moyens.
Alors, j'ai quand même travaillé. J'ai pas regardé Boston-Miami en me disant, vas-y, c'est bon, on en parle 5 minutes et on passe à autre chose. Non. On va parler un peu de Boston, quand même. Parce que je suis tombé sur des infos qui sont marrantes, qui sont intéressantes. On le sait tous, Boston, c'est une équipe qui axe beaucoup son jeu sur le tir à 3 points. Plus de 47% de ses tirs sont à 3 points. Et ils en plantent 38,8% de ses tentatives. Donc c'est le plus gros volume de toute la NBA en termes de tirs. Hein. Je crois qu'ils sont à 42, plus de 42 tirs par match à 3 points. 47%, c'est la totalité de leurs tirs. C'est sur la totalité de leurs tirs, hein, qu'on soit bien d'accord. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Tu me dis si je suis pas clair. Et ils ont le deuxième meilleur pourcentage de réussite de toute la ligue. Derrière OKC, je crois. Donc, grosso modo, Boston, ils te plombent avec leur tir à 3 points. Ouais. Cependant, un des rares points faibles de Boston cette saison, c'est son jeu dans les moments décisifs. Et Dieu sait que ça ne s'est pas arrivé beaucoup.
La première chose
à dire, c'est que ce n'est pas arrivé beaucoup. Mais il y a Michael Pigna de The Ringer qui est allé chercher une stat qui est assez marrante. Sur les 25 matchs où l'écart était de 3 points au moins, avec au moins 3 minutes restant à jouer cette saison, ils ont un bilan de 13 victoires et 12 défaites. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que leur efficacité offensive baissent drastiquement quand ils sont un peu trop serrés, quand le score est un peu trop serré. Et en fait, ils ont tendance à jouer d'une manière un peu trop prévisible et pas assez méthodique. C'est-à-dire que tu sais qui va tirer et tu sais à peu près quel shoot ils cherchent à prendre. C'est à peu près écrit. Et si tu as un coach qui réfléchit, il va pouvoir dire, tiens, on va essayer de les empêcher de faire ce qu'ils veulent, puisqu'on sait à peu près ce qu'ils veulent faire. Et une fois que tu les bloques, ils ont pas trop, enfin, c'est un peu plus difficile pour eux de contrecarrer les plans adverses, quoi. Il a essayé aussi, il pointe aussi du doigt le fait qu'ils ont un rythme du jeu qui se ralentit et qu'ils ont du mal à générer des tirs de qualité dans ces cas-là. Jaylen Brown et Jason Tatum voient leur pourcentage de tirs régulièrement baisser de manière significative dans les moments clutch. Ils ont du mal à être autant efficaces qu'ils ne le sont autrement dans les moments clutch. À certains moments, il y a des fois ils sont absolument formidables, qu'on soit bien d'accord. Je dis pas qu'ils sont nuls tout le temps, mais ça leur arrive d'être en difficulté sur un petit échantillon de la saison. Ça leur arrive d'être en difficulté. Voilà. J'aimerais finir en pointant du doigt que Jrue Holiday est connu pour avoir des baisses de régime en playoff de temps à autre. C'est arrivé par le passé. Et les gens qui cherchent un petit peu où taper dans les côtes de Boston, bah, il peut y avoir ça. Et puis, il y a toujours Kristaps Porzingis. Voilà, la question que moi je me pose personnellement, c'est est-ce que son état de santé, qui a été magnifiquement managé par le coaching staff cette saison, est-ce que il est capable de passer 4 tours de playoff sans aucun pépin? Et je terminerai en disant la même chose que ce que je disais à propos de Denver tout à l'heure. Porzingis qui se pète côté Boston, ça peut changer beaucoup de choses pour cette équipe.
Ouais, mais là où à l'ouest c'est la jungle et Denver ne peut pas se permettre de, entre guillemets, gérer la santé de ses joueurs, je suis désolé, mais à l'est, Boston donne l'impression d'avoir tellement de marge que s'il y a un match où il faut que Kristaps joue un quart d'heure ou moins, ça posera pas forcément d'énormes problèmes. Moi, sur la confrontation avec Miami, à la limite, ce que j'ai envie de voir surtout, c'est à quel point Boston a progressé sur les problèmes qu'ils ont eu la saison dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, par exemple, ils ont grave galéré contre la défense de zone du 8.
Ouais.
Comment ça se passe cette saison? C'est quasiment, enfin, l'effectif a évidemment changé, mais il y a quand même la même base, il y a le même coach. Je veux plus qu'ils galèrent sur la défense de zone. Ça, pour moi, ça va être un élément qui est important. S'ils galèrent comme ils l'ont fait la saison dernière, je trouverais ça très décevant. Mais oui, les arguments que tu as avancés sur le clutch, moi je veux bien l'entendre, mais en réalité, quand est-ce qu'ils vont se confronter à ça dans les playoffs là? Tu vois, quelle équipe aujourd'hui à l'Est peut, sur une série, les pousser à des matchs tendus tout le temps?
Alors d'accord, c'est exactement ce qui leur est arrivé la saison dernière. L'an dernier, ils étaient, je crois qu'ils dans leur offensive rating dans le clutch était pas mauvais. Je crois que c'était la 11e meilleure équipe dans le clutch la saison passée. 24 victoires, 13 défaites ce qui correspond au clutch NBA, donc c'est 5 minutes, 5 points ou moins de différence. Et en playoff, ils se sont totalement croûtés. Ils ont fait 5 victoires, 6 défaites. Alors, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu assez pour qu'ils se vautrent. Et on a bien vu que contre Miami, qui aurait imaginé qu'ils se retrouvent 3 défaites à 0.
Ouais, non, mais alors j'allais te répondre, oui, mais qui est le Miami de cette saison? Mais en même temps, on peut pas le savoir parce que déjà Miami l'année dernière, on pouvait pas.
Oui, je sais bien. Mais ce que j'allais finir par dire, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui à l'Est aujourd'hui peut aller les pousser dans ces retranchements? Pas beaucoup d'équipes. Mais est-ce que c'est une bonne chose, Charlie, pour Boston, de se retrouver dans cette configuration où grosso modo, ils risquent de marcher sur absolument tout le monde? Et de se retrouver en finale, alors on verra qui sera l'adversaire. Mais s'ils ont un adversaire à la hauteur,
oui, mais ça,
tout d'un coup, tu vas te retrouver avec un autre niveau d'intensité, quoi.
Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça, c'est toujours la même question. C'est, tu vois, est-ce que tu préfères avoir une campagne de play-off où t'as pas trop besoin d'aller chercher dans tes retranchements et où t'as quelques jours de repos avant d'entamer les finales et où t'es en pleine possession de tes moyens, ou alors est-ce que tu préfères un parcours qui sera probablement plus dur pour l'équipe à l'ouest, mais qui du coup sera pas du tout dans le même état physique. En fait, c'est toujours un équilibre qui est compliqué à trouver. C'est clair. Je ne saurais dire ce qui est le mieux, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour Boston de ne pas être dans la difficulté pendant toute la campagne à l'est.
J'en suis convaincu de ce truc-là.
Mais parce que tu vois, tu évoques la campagne de l'année dernière, mais par exemple l'année dernière en demi-finale de conférence, ils se retrouvent face à des Sixers qui, même si Embiid n'était pas au top physiquement, paraissaient quand même plus solides que les Sixers de cette saison.
Largement, mais ils sont à deux doigts de se faire éliminer par Philadelphie, en vrai.
Ah oui, ça se joue au match 7. Ça se joue à un Tatum game de fou furieux qui met une cinquantaine de points sur le match 7, quoi.
Ouais, ça peut être les deux scénarios, finalement. Ça peut être un gage d'extrêmement bonne santé, de fraîcheur physique, mentale, psychologique, tout ce que tu veux. Et c'est ce qui va leur permettre d'aller au bout cette saison. Ça peut aussi être... t'installer pas dans des bonnes habitudes et être surpris en termes d'intensité si jamais tu tombes sur un adversaire vraiment coriace en finale, quoi. Je sais pas.
Bien sûr, mais ils auront un adversaire coriace en finale, quoi qu'il arrive. L'Ouest, c'est trop la jungle. C'est impossible que l'équipe qui sorte de l'Ouest soit faible.
Ouais, on verra ça. Je vois pas qui arrêtera Boston cette saison, mais franchement, voilà.
La seule équipe qui peut arrêter Boston cette saison, c'est Boston. C'est qu'ils retombent dans leur travers de mollesse, en fait, qui soit pas assez dans la difficulté, quoi, tout simplement.
Oui, complètement.
On l'a vu combien de fois, Tatum, qui, pendant la saison dernière, il y a un match où Tatum prend pas un shoot quasiment pendant trois quarts temps, et puis tout à coup, il se réveille. Ok, mais pour être champion, c'est difficile de faire ce genre de truc.
Ouais, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner Boston. Il y a tellement de choses qui doivent être confirmées du côté de Brown, de Tatum, même de Mazzulla, les ajustements. Enfin, quand t'écoutes les fans des Celtics, enfin moi j'écoute beaucoup les podcasts de Bill Simmons et tu vois bien qu'il est quand il parle de ses interactions avec les gros fans de Boston qui suivent les 82 matchs de façon religieuse du début à la fin, de chaque minute, chaque seconde des rencontres. Ce qui est assez drôle, c'est que ça déborde pas totalement de sérénité.
Bah, c'est normal. Enfin, tu vois,
c'est assez étrange, en vrai.
Moi, je trouve ça assez normal, hein. En fait, c'est parce que,
Ils ont des gros doutes sur la capacité de Mazzulla, par exemple, de prendre les bonnes décisions dans le crunch time ou le moment où il faudra prendre la décision pas cool de sortir ci ou de changer de façon de jouer. C'est ça, en fait, que je reprocherais à Boston. C'est leur côté trop prévisible, en fait.
Ouais, Mazzulla. Et puis, moi, j'en reviens à un truc qui est un peu... c'est un peu un truc... C'est pas une obsession, mais je reste persuadé qu'il manque d'un profil comme Marcus Smart dans cette équipe. Et surtout, si on est dans une campagne de play-off où les mecs n'ont pas besoin de se faire violence du début à la fin, est-ce qu'il y a vraiment dans cet effectif le mec qui va être capable d'allumer l'interrupteur au bon moment, tu vois, arriver en finale, de dire « bon bah les gars, c'était facile jusqu'à maintenant, mais là on est en train de passer dans un autre univers, et maintenant il faut qu'on s'arrache, les gars, c'est la sueur et le sang, ou alors on gagnera pas. »
Tout à fait. On va voir ce que ça va donner. On va partir sur la série Cleveland-Orlando. Il y a eu un match qui a été joué de cette série. Cleveland s'est imposé à domicile. Et comme prévu, Orlando incapable de gérer le scoring.
C'est
une catastrophe absolue.
Ce match était une purge.
Dieu sait que j'aime bien Orlando. Et franchement, elle m'a fait kiffer cette saison. Mais alors, ce match était une douleur du début à la fin, quoi. Franchement, c'est chaud. Et au-delà de ça, c'est pas triste, c'est pas le mot qui convient, c'est exagéré de dire ça. Mais ouais, Franz Wagner, je crois pas qu'il va réussir à percer cette saison, quoi. Il va vraiment falloir qu'il bosse sur son tir. Il va vraiment falloir qu'il bosse sur certains compartiments de son jeu pour réussir à être vraiment complémentaire de Banchero. Mais là, c'est too much pour Orlando, je crois. J'ai du mal à les voir faire quoi que ce soit contre Cleveland, bizarrement. Ouais, et Dieu sait qu'ils sont prenables, hein, Cleveland. Dieu sait qu'ils sont prenables.
Non, mais c'est clair que le visage qu'ils ont montré hier à Orlando, c'était franchement inquiétant. C'est beaucoup, beaucoup trop limité offensivement pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Et en fait, il n'y a aucun moment dans le match où j'ai été inquiet pour les Cavs. Même quand Orlando est revenu, je crois, à 4-5 points d'écart, c'est pas bon. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que même défensivement, ils se sont plantés en première mi-temps.
Complètement.
Mobley s'est régalé en exploitant les mismatchs qui lui étaient proposés. Enfin, il faut absolument que Mosley trouve les bons ajustements défensivement. Enfin, défensivement, il les a plutôt trouvés au fil du match, mais offensivement.
Ouais. Voilà. En fait, tu peux pas. Il y a trop de déchets.
Ah ouais.
Gary Harris, 0 sur 6 au tir. Cole Anthony, qui est censé être le comment dire, l'électron offensif en sortie de banc, 0 sur 7, 0 sur 4 à 3 points. Markel Fultz, 0 sur 4. Wendell Carter Jr., 1 sur 3. Il n'y a personne pour sortir quoi que ce soit. Tu
n'as pas cité Joe Ingles, c'est vraiment du favoritisme.
Oui, Joe Ingles aussi. Au final, le mec qui était le plus probant en sortie de banc, c'était Mo Wagner, quoi. Et si lui n'était pas là, je me demande comment se serait passé cette rencontre.
Ce que tu viens de dire est absolument horrible. Hein. Cette phrase est horrible. Le plus probant en sortie de banc, c'était Mo Wagner. C'est horrible comme phrase. Non, mais vraiment, c'est horrible.
C'est le seul que tu regardes en te disant « Ah tiens, il y a un mec qui essaye, quoi. »
Ouais, et il essayait en obtenant des fautes techniques, quoi. C'est pas non plus... C'est...
Jalen Suggs, c'était une purge, 4 sur 16. Enfin bref, je sais pas, c'était...
1 sur 7 à 3 points, Jalen Suggs, ouais.
C'est chaud, quoi.
Ouais, c'était inquiétant. En fait, Et encore, là, on parle de l'adresse à 3 points, mais on peut aussi parler des lancers francs. Hein. Ils sont à 60, je crois qu'ils sont à 60% sur le match d'hier. C'est... En fait, ça... Je trouve
19,
ça
19 sur 30, ouais. 63.
Je trouve ça triste qu'on ricane, tu vois, parce qu'on est obligé de ricaner, parce que franchement, c'était le premier match des playoffs en plus. Hein.
Ouais, c'est.
Tu
c'est
vois, compliqué. Les attentes étaient élevées, mais ouais, c'est pas bon. Mais bon, quoi, il faut que Jamal Mosley trouve des solutions pour mettre ces quelques shooters à 3 points dans des meilleures conditions. Il faut mieux capitaliser sur les pertes de balles des Cavs.
Il nous avait mis Jonathan Isaac dans le 5, pourtant. J'étais là, what?
Ouais.
Jonathan Isaac va jouer plus de 15 minutes ou quoi? Oui, 29. Il nous a fait deux matchs en un.
Ouais, ouais. Alors, un truc aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup lu des commentaires sur le match de l'année dernière en disant que c'était la victoire de la défense sur l'attaque. Non. Non. On a vu beaucoup trop de shoots ouverts ratés. On peut pas dire que c'est grâce à la défense. Vraiment, Orlando a pêché en attaque. Alors, le contexte du match joue énormément. Hein. Banquero, ouais. Qui d'ailleurs a perdu 9 ballons, c'était ouf. Et il l'a dit, il a des déclarations à l'issue du match qui sont très très claires. Il a parlé de nervosité, il a dit qu'il était super nerveux, surexcité. Enfin voilà, il est très conscient du fait que le contexte du match a eu un impact sur la production de son équipe. J'ai aucun doute là-dessus, on sait que cette équipe elle est assez inexpérimentée. Mais bon, en fait, quoi qu'il arrive, je pense que la marche, elle est trop haute. En fait, ces Cavs-là, on l'a un peu oublié cette saison parce qu'ils ont glissé au classement des meilleures défenses. Mais la saison dernière, c'était eux la meilleure défense de la Ligue. Ils ont la capacité d'extrêmement bien défendre.
Ils sont revanchards aussi.
Aussi, ouais.
Ils sont revanchards de cette fait sortir par les Knicks.
Non, et puis ils ont Donovan Mitchell, en fait.
Ouais.
Donovan Mitchell, qu'on aime le bonhomme ou pas, il peut scorer sur n'importe quelle défense.
Et je pense que cette équipe a envie de bien faire et ils s'en sont plutôt bien sortis sur ce premier match. Après, c'est pas pour autant que je vois Orlando se croûter lamentablement, je pense pas. C'est pas comme ça qu'ils sont dans cette équipe.
Ouais.
Je peux pas croire qu'ils vont sortir par la petite porte comme
ils
ça.
Ils vont montrer un autre visage.
Oui. Au moins quand ils arriveront devant leurs supporters. J'ai Cleveland en 6 dans cette série. Je veux croire qu'Orlando soit capable de prendre un voire deux matchs. J'espère vraiment deux matchs.
Alors moi j'ai envie de croire que ça peut même aller jusqu'en 7 à condition que Mosley trouve des solutions offensives, parce que tu l'as dit, Orlando, c'est une excellente équipe à domicile, c'est une des meilleures équipes de la Ligue à domicile, je les vois assez bien remporter leur match là-bas. Mais pour ça, il faut absolument qu'ils trouvent des solutions offensives, il faut absolument qu'ils nous montrent un autre visage au-delà de l'aspect nervosité, il faut qu'il y ait un jeu offensif qui soit plus cohérent et plus intéressant. Si ça n'arrive pas, alors oui, ça sera du 4-1 ou du 4-2. Mais j'ai envie de croire en cette équipe quand même.
Ouais, moi aussi, franchement, j'aimerais même les voir gagner personnellement, mais bon, si c'était contre Boston après, ça va être encore être une. Ils vont se faire laminer, quoi.
Ah ouais, c'est une bête de toute façon.
Ils savent pas scorer. J'espère. J'ai un grand espoir côté Orlando, c'est que cette série, c'est ce goût des playoffs, donne justement au front office la direction à suivre pour continuer à bâtir ça et la motivation chez certains joueurs de continuer à construire sur cette excellente année qu'ils viennent de vivre. Parce que franchement, je crois que c'est une des plus grosses progressions, si ce n'est la plus grosse progression de la saison, je crois, Orlando. Et je me dis que voilà, il y a vraiment quelque chose à bâtir là-bas. Ils sont vraiment sur des bons rails. J'adore absolument la quasi-totalité des joueurs de cet effectif. Et je pense vraiment qu'avec Franz Wagner s'il peut rentrer dans une nouvelle dimension, Paolo Banchero qui continue son évolution. Voilà, Banchero c'est 21 ans, Wagner c'est 22 ans, Jalen Suggs il pas bien vieux non plus.
22
Donc
aussi, ouais.
ouais voilà, donc tout ça c'est ça se construit et j'ai envie d'y croire quoi. Et Cleveland, voilà Cleveland, je pense que ça peut être un bon adversaire dans les pattes de Boston. Mitchell il est ultra talentueux. Je sais pas si c'est possible pour eux de retrouver un peu la dynamique qu'ils ont eu à un moment dans la saison là où ils gagnaient absolument tous les matchs et tu sais pas pourquoi, mais alors qu'il y avait des blessés en plus partout. Mais voilà, Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen était monstrueux hier soir. Donc non, je sais pas, je voilà.
Oui, et puis avec dans le cas des Cavs, il y a quand même un enjeu aussi, c'est la prolongation de Donovan Mitchell. C'est important que cette équipe montre à Donovan Mitchell qu'il peut être ambitieux à Cleveland.
Alors ça a l'air d'être mort quand même, cette histoire.
Bah,
C'est assez fou, mais
ça dépend qui on écoute. Si
ouais.
t'écoutes le proprio, le Dan Gilbert a expliqué qu'il était persuadé qu'il allait prolonger.
Ouais. Il y a tellement, ça dure depuis tellement longtemps les rumeurs autour de. Personnellement, à chaque fois que j'ai entendu des rumeurs se prolonger comme ça sur
C'est jamais bon signe, ouais.
plus d'une saison, c'est tu te dis bon, il y a un moment.
C'est jamais bon signe,
Ouais.
c'est clair. Ouais, non, mais
Je
je
vois
suis d'accord.
pas comment ça va bien se
Et de toute
passer.
façon, on sait très bien que Donovan Mitchell regarde du côté de New York depuis longtemps et
Ouais.
qu'il a pour ambition un jour d'y jouer.
On verra ça. Pacers contre les Bucks. Drôle de duel, mais encore une fois.
Gâché!
Gâché! C'est
Gâché!
gâché! C'est relou!
C'est
C'est pénible! C'est pénible! Ça me contrarie énormément. Je suis très contrarié. Giannis Antetokounmpo risque de manquer la totalité de cette série. Il a des douleurs à la jambe, des douleurs au tendon. Il craigne que s'il rejoue, potentiellement, il puisse avoir une vraie grave blessure, style rupture des tendons d'Achille. Donc ils vont essayer de le préserver le plus possible et le faire revenir que quand ils seront à peu près sûrs qu'il ne risque pas d'empirer son état. Indiana a largement dominé les confrontations face aux Bucks cette saison. Et très franchement, je ne sais pas quoi penser de ce duel du tout devant ce qu'on a là, quoi. Je ne sais pas quoi penser.
Ben en fait, c'est difficile parce que c'est difficile de savoir dans quel état sont réellement les Bucks. Tu l'as dit, il y a le cas Giannis, mais il y a aussi Lillard. En fait, cette saison, tous les mecs qui ont eu Lillard a eu des pépins physiques, Middleton a eu des pépins physiques. Tous, ils ont tous eu des problèmes plus ou moins importants sur une période qui est plus ou moins récente. Bon, ah, visiblement, Lillard est pleinement de retour. Il a l'air de plus avoir de douleur, donc tant mieux. Mais dans quel état mental est cette équipe? Les conditions sont pas bonnes. En plus, là, ces derniers jours, on a eu des rumeurs rapportées par plusieurs insiders sur des éventuelles conséquences que pourrait avoir une nouvelle élimination au premier tour. Certains parlent déjà de la fin du duo Lillard-Antetokounmpo, d'un départ de Giannis. Enfin, bref, le vestiaire doit quand même pas respirer la sérénité. Alors, oui, c'est des joueurs expérimentés. Oui, ils ont déjà vécu des situations similaires, mais ça joue quand même. Bon, En fait, ce qui est terrible dans l'analyse de cette série, c'est que la présence de Giannis change absolument tout. Il correspond parfaitement aux faiblesses de cette équipe d'Indiana qui galère à défendre à l'intérieur. C'est une des pires équipes de la Ligue au rebond défensif. C'est une des pires équipes de la Ligue dans les tirs concédés dans la raquette. Tout ça, c'est du pain béni pour Antetokounmpo. D'ailleurs, ça s'est vu en régulière puisque ses deux plus grosses perfs offensives de la saison ont eu lieu face à Indiana.
Les 5 matchs de Antetokounmpo face à Indiana cette saison, c'est plus de 42 points, 13 rebonds, plus de 5 passes, 1,6 interceptions, 1,2 contre par match. Et un true shooting de 76,6%.
Ouais, non, mais il se régale à chaque fois qu'il les joue. Donc, voilà, cette série, il faut en faire deux analyses. Une analyse avec Giannis et une analyse sans. Mais bon, Moi, j'ai quand même hâte de voir comment les Pacers vont se comporter. J'ai envie de voir s'ils sont capables d'imposer leur rythme. Il faut pas oublier qu'ils ont une pace délirante, hein, cette saison. C'est la deuxième pace la plus importante de la ligue. Donc, on sait que c'est pas le style de jeu le plus fonctionnel en playoff. On sait que la capacité à ralentir le rythme et à développer un jeu sur demi-terrain, c'est nécessaire. Mais face à ces Bucks-là, qui ont une défense qui est moyenne, aussi moyenne que celle d'Indiana, en fait, quasiment, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. C'est trop ouvert cette série. C'est trop ouvert. J'ai envie de partir sur Indiana parce que j'aime beaucoup cette équipe et que j'ai envie de les voir réussir à développer leur jeu et à imposer leur rythme sur ce premier tour là. Mais en réalité, si Giannis était là, je pense que mon prono serait inversé.
En plus, ce qui est assez hallucinant, c'est que ces deux équipes là en vrai ne se connaissent pas vraiment dans le sens où ils n'ont jamais joué dans la configuration actuelle. C'est-à-dire que je crois qu'ils n'ont joué que quand... ils n'ont jamais joué avec Pascal Siakam dans l'effectif, par exemple.
Non. Donc, non, le dernier. En fait, ils n'ont même jamais joué sous Doc Rivers.
Voilà. Donc, il y a c'est une toute nouvelle configuration, quelque part, à laquelle ces deux équipes vont se disputer dans ce premier tour. Donc je sais vraiment pas quoi penser. Effectivement, l'absence de Giannis pèse beaucoup. Pour mon pronostic, moi je suis parti. Tu sais sur quoi je suis parti ?
Non.
Je suis parti sur Bucks en 7. Parce que je veux croire que Damian Lillard, qui l'a dit répété, traverse une séparation difficile, il voit pas ses enfants comme il veut et ainsi de suite. Enfin bref, dans sa vie perso, c'est la galère. Et donc il a vécu une saison régulière compliquée. J'ai envie de croire qu'en playoff, il va se réveiller. J'arrive pas à me résoudre que Damian Lillard ne va pas se réveiller à un moment ou un autre dans cette saison et pas en playoff.
Ouais, mais pareil pour Haliburton, quoi.
Ouais. Mais Haliburton, à un moment, a été magnifique cette saison.
Oui, mais pas depuis quelques mois.
Voilà, et depuis quelques mois, il est en baisse. Il y a aussi l'absence de Bénédicte Mathurin du côté des Pacers qui leur crée un trou dans leur rotation sur les lignes arrières que j'aime pas trop. Et j'ai hâte de voir un peu justement comment ils vont adapter la rotation une fois que les playoffs vont commencer, quoi. Contrairement à la régulière. Je sais pas. Et j'ai envie de croire que Bobby Portis, malgré l'absence de Giannis, bah, c'est typiquement le genre de série où le mec va exploser, va nous planter 30 points par match et on va dire « Ah, Bobby, d'où il sort tout ça ?» Et il va nous gagner 4 matchs pour les Bucks, quoi. Et il va faire passer le truc, quoi.
Non, mais ça,
j'ai l'impression que c'est justement au moment où je suis prêt à enterrer les Bucks qu'ils vont se réveiller, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça.
Mais c'est bien possible.
Et ça se trouve, ça va être 4-1 pour les Pacers.
Et j'aurais l'air d'un
imbécile.
Il y a un passif entre ces deux équipes. Hein. On se rappelle de l'épisode du ballon qui avait causé quelques tensions. Enfin bref, il y a. C'est un premier tour qui peut être très chouette avec ou sans Giannis, ça c'est clair.
Mais c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer Damian Lillard ne pas répondre présent face à cet adversaire-là. J'ai l'impression qu'il va être ultra motivé à l'idée d'éliminer les Pacers.
Oui, mais je pense qu'il va répondre présent au scoring, mais est-ce que ça suffira? Je sais pas.
Je sais pas non plus.
Elle est trop. Non, en fait, c'est trop dur de pronostiquer ça parce qu'on sait même pas. Enfin, tu vois, si ça se trouve, Antetokounmpo, il est là au deuxième match.
Mais complètement.
Et au quatrième match, il est en pleine possession de ses moyens.
Complètement.
Bon.
Et puis on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de tous les autres, de Middleton, de
non,
Lopez,
lui aussi avec une saison compliquée.
Et complètement, et qui est capable quelque part, je veux dire, avec Antetokounmpo hors de l'équation, ça peut libérer des tirs pour Lillard, pour Middleton, ça peut débloquer des certaines situations. J'ai lu que Doc Rivers songeait à donner plus de possession à Lopez en post-up au panier, truc qu'il a pas fait depuis qu'il a quitté les Nets. Avec Doc Rivers, on est prêt à tout, tu sais. Donc,
ne me lance pas sur le sujet.
Si, j'essayais justement. Mais, mais bref, je, ouais. Milwaukee en 7, j'arrive pas à croire que Milwaukee va s'affaler une deuxième année consécutive, quoi.
Écoute, sans Giannis, Indiana en 6, avec lui, Milwaukee en 7. S'il revient en cours de série.
Ouais. C'est tellement compliqué.
Ouais, c'est terrible.
C'est tellement compliqué à pronostiquer.
Mais quelque part, ça me ferait rire, tu vois, que cette équipe de Milwaukee qui a brillé pendant des années et des années par sa défense, qui était considérée comme l'équipe sur laquelle personne... T'imagines s'ils se font sortir au premier tour par une équipe qui ne fait qu'attaquer? C'est... Non, mais c'est dingue, tu vois.
C'est dingue, ouais. Je persiste à dire que le licenciement de Budenholzer est plus un problème pour les Bucks qu'autre chose, en fait.
Ah bah, énorme.
Ça réglait absolument rien.
Bah, surtout qu'ils l'ont pas remplacé, en fait.
Voilà. Et je sais pas à quel point ça, il était plus respecté dans le vestiaire, mais,
wow. Après, c'est, en fait, je suis d'accord avec ton verdict, mais on tient ces propos-là parce qu'ils l'ont pas remplacé.
Ouais.
Si la greffe Adrian Griffin s'était bien passée, s'ils avaient choisi un profil comme Nurse, enfin, tu vois, voilà, s'ils avaient trouvé un bon remplaçant, on serait pas du tout en train de tenir le même, les mêmes discours.
Ouais, tout à fait. Ouais. On verra ça. On termine avec les Sixers face aux Knicks. Embiid est revenu il y a quelques temps de ça. Dans le match face au play-in, déjà, c'était pas Jojo. Sans mauvais jeu de mots.
Ça j'aime beaucoup.
Voilà, tu vois bien qu'il a du mal à se déplacer, qu'il a du mal à faire certains mouvements, certains déplacements, notamment latéraux, ce qui est normal. Et le premier match face aux Knicks, donc remporté au Madison Square Garden par New York, il y a un moment où, où Joel Embiid est allé balancer le ballon sur le plexi pour aller écraser un dunk.
Mais pourquoi il fait ça?
Et il retombe forcément un peu lourdement sur ses jambes et sur son genou opéré. Et voilà, il sort et il finit par revenir. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Mais franchement, je peux pas croire. Il y a eu une excellente vidéo là de Ben Taylor de Thinking Basketball sur YouTube là, qui explique à quel point la santé et les blessures d'Embiid ont contrecarré ses plans en playoff. Parce que voilà, moi le premier, je suis souvent à critiquer Embiid du fait qu'en playoff, il diminue beaucoup dans sa production. Il a fait une excellente vidéo pour un peu expliquer, revenir un peu plus en détail sur le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça ces dernières années et à quel point il a vachement progressé, il s'est amélioré personnellement depuis deux saisons là où il a vraiment développé des parties de son jeu, notamment la lecture du jeu, la passe, comment le spacing mis en place par Nick Nurse l'aide énormément à exprimer d'autres facettes de son jeu. Et bref, et sans lui, je vois pas comment Philadelphie peut avoir une seule chance de s'en sortir. Je rappelle qu'ils sont sans D'Anthony Melton, sans Robert Covington également, qui sont absents et qui sont quand même des role players importants du côté des Sixers à la base, surtout Melton qui était dans le 5. Donc voilà, donc je peux pas croire que les Sixers s'en sortent sans ce mec-là et j'ai quasiment aucun espoir de voir Embiid s'en sortir, ne serait-ce que dans cette série. Je vois même pas comment c'est possible qu'ils finissent la série sur ces deux jambes, en fait.
Bah, et oui, ça, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En fait, ce qui est terrible, c'est que, en fait, dès que j'ai vu son action, je regardais le match en direct et dès que j'ai vu son action, vraiment, je te jure, avant même de me dire waouh, c'est magnifique, je me suis dit mais pourquoi ?
Pourquoi tu fais ça ?
Pourquoi tu fais ça ? Et son appui et ses réceptions, moi je suis désolé mais il se réceptionne mal. En fait, tu dis il tombe lourdement sur son genou. En fait, il fait un petit écart au moment de sa réception.
Oh,
et tu vois bien que c'est ouais, voilà, c'est chiant parce que c'est ça la clé de la série, on le sait très bien. En fait, avant même cette action là on savait que la clé de cette série c'était Joel Embiid et son état physique, et malgré ça il va prendre ce risque là je comprends pas pourquoi il fait ça, je suis désolé, en plus c'est pas comme si sa fragilité elle était nouvelle, tu vois, c'est pas comme s'il découvrait cette situation, il est pas du tout en train d'apprivoiser un corps avec lequel il doit faire attention, ça fait des années qu'il sait qu'il doit faire attention.
Et ça fait des années qu'il est ralenti à cause de ses multiples pépins physiques, problèmes. Franchement, je vous invite à regarder cette vidéo là de Thinking Basketball. C'est assez éloquent en fait à quel point ce gars-là n'est jamais en pleine possession de ses moyens physiques, quoi.
Ouais, bah oui.
À un moment ou à un autre, il peut commencer des playoffs en bonne santé, mais au bout du deuxième tour, la plupart du temps, vu qu'il a jamais fait les finales de conférence. Il finit par se péter, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui part de travers, il y a toujours quelque chose qui colle pas. Et c'est malheureusement ça, quoi, sa carrière pour l'instant.
Mais en plus, faut dire les choses, c'est que il y a des équipes, quand t'es fragile physiquement, il y a des équipes que t'as moins envie de jouer que d'autres. Et les Knicks, ça fait partie des équipes quand t'es fragile physiquement que t'as pas envie de jouer. Enfin, ils sont, tu vois, c'est pas une équipe qui est là pour rigoler en fait. C'est une équipe qui joue dur, surtout.
C'est ça, exactement.
Dans la raquette, ils ont du matériel, hein. Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein. Tu vois bien que ces mecs-là, ils ont pas peur du contact, qu'ils ont pas peur d'y aller, qu'ils sont capables.
J'ai envie de te dire que en fait, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux dans le premier match. C'est à quel point Embiid, s'il était en bonne santé, il marcherait sur Robinson et Hartenstein, quoi qu'il en soit. Et je trouve ça assez terrifiant, en fait. C'est-à-dire que la puissance, la domination physique d'Embiid quand il est en possession de ses moyens, ou quand il a des bribes comme ça, malgré qu'il soit blessé, là, c'est effrayant. Il est absolument ultra trop fort, quoi. C'est n'importe quoi.
Le Embiid du début de saison, enfin du début de jusqu'à ce qu'il se pète, quoi, donc jusqu'à janvier, mais il n'y a personne qui peut défendre sur lui.
Absolument, c'est fou. C'est complètement fou.
C'est dingue.
En fait, on nous prive de ça, et c'est ça qui me gave là, dans ces playoffs, c'est que depuis tout à l'heure, voilà, on parle de Miami sans Jimmy Butler. Qu'est-ce que tu veux faire comme analyse sans Jimmy Butler? Qu'est-ce que tu veux que Miami fasse décemment face à Boston? Ah oui, ils vont se battre et tout ça, mais il y a un moment, ça va être trop compliqué, quoi. Et les Bucks, c'est un peu pareil. Peut-être qu'ils vont passer Indiana, mais derrière, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent faire si Antetokounmpo ne revient pas? C'est pas possible, tu vois.
Ah non, mais c'est clair que c'est
trop compliqué, quoi. Et je sais bien que les blessures font partie du jeu et tout. Et alors là, avec les Sixers, mais c'est pour la énième fois, c'est la même chanson qu'on nous propose, quoi.
Oui, alors les blessures font partie du jeu, mais c'est ce qu'on se disait en off, toi et moi, avant le podcast, c'est que là, on est quand même sur une année où les mecs qui sont blessés sont des game changers, sont des franchise players. Là, si on fait le bilan depuis qu'on a commencé à évoquer les previews, à l'ouest, Zion, Kawhi, à l'est, Butler, Yanis, Embiid, on n'est pas en train de parler de role player là, en fait, on est en train de parler de mecs qui sont les principaux acteurs des playoffs des saisons précédentes.
En fait, des joueurs dont l'absence change absolument tout. Dans l'analyse que tu feras d'une équipe et dans sa capacité qu'elle va avoir à tracer sa route en playoff, quoi.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est des joueurs dont la présence a une influence qui est colossale sur le jeu de leur équipe. Là, tu vois, pour rester sur les Knicks, par exemple, les Knicks aussi, ils ont un joueur qui est très important, qui est blessé, c'est Randle. Mais ils sont pas du tout aussi dépendants à Randle que sont dépendants les Sixers de Joel Embiid, en fait. Ça n'a rien à voir, quoi.
Absolument pas, ouais.
Et c'est vrai que ces playoffs, je les attendais... vraiment fort, c'est la campagne de playoff que j'attendais le plus depuis des années, je pense, et c'est vrai que c'est difficile là de voir chaque jour les un tel est blessé, incertain, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, un tel est blessé. C'est difficile. Alors, ça ne change rien au fait qu'on peut avoir des playoffs incroyables, parce que il y a des joueurs qui vont profiter de ça, qui vont profiter de l'absence des franchise players pour briller. Ça va nous permettre de voir d'autres acteurs se mettre en valeur. Ça va nous permettre de noter d'autres choses intéressantes. Mais c'est vrai que dans l'analyse des séries, c'est une donnée qui est difficile à digérer.
Complètement, ouais. Et ça bah, ce qui est assez ironique, c'est que si on avait fait cette preview avant le premier match, on aurait peut-être dit autre chose concernant les Knicks et les Sixers. Là, mon pronostic, c'est les Knicks en 6. Je vois pas comment les Sixers s'en sortent sans Embiid. Et je vois pas Embiid finir cette série, je sais pas. J'aimerais avoir tort. J'aimerais vraiment avoir tort. Mais là, ça me semble dangereux, en fait, de le voir jouer, quoi.
Ouais.
Ça me fait mal, en fait, de le voir sur le terrain. J'ai mal au genou pour lui.
Moi, j'ai envie que cette série elle aille en 7, parce que j'ai toujours envie de voir des Game 7 au Madison Square Garden.
Mais
en fonction de l'état d'Embiid, je pense que ça va se conclure en moins de matchs. Surtout qu'en plus, tu vois, on voit le match de la nuit dernière. Les Knicks gagnent avec un Brunson pas extraordinaire, et je suis pas sûr que Jalen Brunson sera 1 sur 6 sur toute la série à 3 points. Je suis pas sûr qu'il sera à 8 sur 26 toute la série au shoot.
On peut parler vite fait de Jalen Brunson, tiens.
Bien sûr.
Jalen Brunson, je me pose beaucoup de questions quand même sur la façon que Tom Thibodeau a de l'utiliser, les minutes qu'il lui envoie dans la tête. Et la capacité de Jalen Brunson à survivre à tout ça pendant ses playoffs, quoi. Parce que quand tu vois l'énergie qu'il déploie sur un terrain, et ça on l'a vu pendant la saison régulière, notamment depuis la fin du All-Star, après le All-Star Game, c'est un des plus gros taux d'usage, si c'est pas le plus gros taux d'usage, je crois, de la ligue. Et en fait, toutes les indications statistiques montrent que sa production baisse en fin de match parce que le mec est juste
mort,
quoi.
Ah, tu m'étonnes.
Il est censé créer absolument tout le temps pour tout le monde. Et dès qu'il quitte le terrain, c'est compliqué. Alors, Dieu sait que Deuce McBride a été absolument magnifique hier, oui, sur le terrain. Et entre lui et Josh Hart, c'était vraiment fou.
Josh Hart, au passage, meilleur rebondeur du match, hein, évidemment.
Ouais, puis alors fin de match, des 3 points, veux-tu en voilà, et partir collecter des rebonds qu'il avait aucune chance d'avoir. Si tu faisais pause, tu voyais Josh Hart à 5 mètres du ballon. 2 secondes plus tard, il était avec la balle dans les mains, en train de prendre le ballon dans les mains du gars, quoi.
Ouais, et puis le rebond offensif qui prend
n'importe quoi.
Mais oui.
C'est pareil.
Monstre.
La stratégie de Tom Thibodeau, là, pour défendre sur Joel Embiid début de match, c'était hyper intéressant. T'avais une prise à deux systématique qui venait du weak side. Donc là où du côté du ballon, où le ballon n'était pas. Et c'était marrant, la rotation défensive qu'il proposait pour essayer de récupérer ça. Il y a 2-3 fois dans mon souvenir où ils se sont foirés, où ça génère des shoots ouverts. En fait, il parie sur le fait que Joel Embiid n'arrive pas à lire, ne puisse pas trouver le joueur démarqué.
Ouais.
Mais n'ait pas le temps de réagir. Et ils sont tellement rapides sur, c'est vraiment très, très risqué, quoi. C'est un joueur qui arrive par derrière au moment où Embiid est prêt à réceptionner la passe, et vous allez voir, le joueur arrive par derrière pour essayer de lui taper le ballon et partir avec la balle, quoi. Faire une interception. Et franchement, tactiquement, d'un point de vue duel de coach, d'adaptation, tout ça, cette série avait vraiment du potentiel, quoi. Et si jamais Embiid joue pas ou est vraiment très diminué, je vois pas comment ça va se passer.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et c'est difficile d'être optimiste maintenant. Écoute, on va voir. Il y a encore des joueurs qui peuvent step up du côté de Philadelphie. On peut penser à Tobias Harris. Tiens, on peut parler de Buddy Hield aussi. Je sais pas si tu te rappelles, mais plutôt dans la saison, on avait eu le débat de est-ce que Buddy Hield peut être utile en playoff ou pas. Waouh! Hier soir, ça a été compliqué. Mais bon, ouais.
C'était sa première fois.
Oui, je sais. Oh. Bah, ça s'est vu que c'était sa première fois. Hein. Mais bon, ouais, non, difficile là. En fait, c'est là encore. En fait, on ne sait même pas ce qu'il en est d'Embiid. En fait, on sait même pas.
Oui, c'est ça, ouais.
Tu vois,
il joue quand même 37 minutes hier soir, quoi.
Ouais, moi en fait,
énorme.
Oui, mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu rassurant, tu vois?
Si, mais bon, je sais pas. Si au moindre saut, il est prêt à se péter la jambe, je suis désolé, mais je suis pas rassuré. Quoi.
S'il est revenu et qu'il a autant joué en deuxième mi-temps après cette action-là, c'est peut-être qu'on peut se dire qu'il n'y avait pas trop, de conséquences réelles. Je l'espère en tout cas, parce que s'il a pris le risque de revenir et que là on a un report demain qui nous dit qu'il est absent pour 3 semaines, bah c'est mal joué en fait, quoi.
Je sais pas. Pendant la retransmission du match, là, les commentateurs américains avaient l'air de dire que c'était, ils avaient bon espoir qu'il n'y ait pas trop de risque de se blesser plus gravement qu'il ne l'est déjà.
Ouais, cette phrase, elle est à la fois rassurante et hyper inquiétante, quoi.
C'est-à-dire que son genou, il est comme il est, qu'il a subi son opération, tout ça, et que logiquement, il n'y a pas de, il va pas, ça va pas empirer, quoi.
Bah écoute, il faut croiser les doigts. Moi, j'ai envie qu'on ait une grosse série, vraiment. J'aimerais bien que ça aille en 7 matchs, moi.
Ah bah cette série, c'était parti pour être un monument du basket.
Ouais.
Potentiellement. Comme tu dis, le Madison Square Garden, c'était...
Quel plaisir.
Quel pied monumental.
Ah là là, ouais, c'est vraiment le genre... On veut tous les matchs, on veut les Knicks tour en playoff tous les ans pour ça.
Quand je pense que KD et Kyrie sont partis à Brooklyn, ça me fait rire. T'avais vu ce truc de KD qui avait fait un podcast avec son agent, où son agent lui dit « Ouais, je t'avais dit de partir à New York et je t'avais dit de rejoindre les Knicks et t'as pas voulu faire ça.
Ah, »
Et c'est trop drôle parce que c'est une des premières fois où KD dit « Ouais, j'aurais peut-être dû t'écouter. » Et voilà, c'est assez drôle. Mais en même temps, il explique qu'à l'époque, les Knicks, c'était pas la destination voulue, quoi. Rêver.
Non.
Bref. Charlie, merci de m'avoir accompagné.
Mais écoute, merci à toi. C'était un plaisir.
Ouais. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez écouté ce numéro en premier, sachez qu'il y a un preview de la conférence Ouest également à écouter si vous le désirez. On passe en revue les 4 séries de la conférence Ouest. Voilà. Et si vous avez tout écouté, merci beaucoup. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À bientôt. Bye bye.